pour le contenu. Voici Marceau le midi avec Marceau et Pascal CV.
Midi 38, on m'a demandé tantôt quand est-ce que je faisais le concours pour le Québec Brew. Ben c'est là, c'est maintenant, ça tente de nous texter. Tu veux participer à ce concours-là, c'est le 418-971-1021. Le temps des fêtes qui arrive à grands pas, puis tu veux gâter ta gang à job, ben on a un concours pour toi et ta gang. Donc, grâce à Boulevard 1021 et Québec Brew, tu pourrais gagner un repas pour 10 personnes chez Québec Brew de Charlebourg. Ça, ça vaut 300$. Toute la semaine, on nomme un finaliste en onde par jour. Et vendredi, on va faire la personne gagnante. Donc, Québec Brew, c'est des burgers, des wings, 10 sortes de poutines différentes, de la pizza avec tous les extras que vous voulez, dans une ambiance qui est juste incroyable. Et en plus, il y a de la bonne bière. Donc, c'est un restaurant qui est chaleureux. Québecbrew.ca. Donc, à l'instant, 418-971-1021. 418-971-1021. Juste à m'écrire le mot Québec Brew et tu vas devenir finaliste si Pascal t'a choisi.
Le hasard, quand même.
C'est le hasard.
Le hasard. Quand même pas avoir l'air d'avoir des chouchous.
Hey, Yannick, faites un poème, vous avez des chances.
Ah! Le meilleur poème?
Ouais.
Ah, OK.
Avec ChatGPT, ça se fait bien. J'ai fait ça pour la carte de Saint-Valentin de ma blonde.
Ça n'a pas paru que ça semblait pas de ta plume?
Elle trouvait que j'écrivais bien. Elle a dit, pour une fois, il n'y a pas de faute.
Pour une fois, il n'y a pas de faute.
Ouais. Comment ça se passe, sa route?
Mal, en ce moment, ça refoule tout le long des ponts. Puis il y a les services d'urgence qui viennent de passer. Il y a des auditeurs qui disent, voyons, qu'est-ce qui se passe sur le pont La Porte Sud? Je viens d'aller voir sur Québec 511. Ben oui, au milieu du tablier, voie de droite qui est bloquée parce qu'il y a un accident, justement, au pont Pierre-Laporte, direction sud. Il y a des débris aussi. Soyez prudents.
All right. Pat Raymond, ex-gestionnaire de patrimoine, présent. Ex-militaire. Salut, mon chum.
Comment ça va, vous autres?
Ça va super bien. Ouais. Moi, je suis rendu que je ne change plus mes horaires de coucher la fin de semaine. Fait que fin de semaine comme semaine, je suis toujours top shape à ce temps.
Ça a toujours été, moi. Toujours.
Mais ben, c'est ouais. Le truc, hein? Tu ne changes pas ta routine de
me
semaine.
Je couche à 10h, me lève à 5h.
Parlais avec mon chum Tommy un matin, puis lui, c'est ça, c'est un musicien. Fait que la fin de semaine, ouais. Il se couche super tard, la semaine, il se couche super tôt.
Avec ouais. Les enfants et la routine.
Ce qui fait en sorte que tu te débalances la fin de semaine. Fait que lundi, mardi, t'es tout le temps un peu dans les vapes.
Ouais. Peut-être que la personne qui est passée sur le pont était sur les vapes. Je vais juste donner un petit peu d'informations. Là. On vient de savoir que c'est un meuble qui est dans la voie de droite. Fait que ça peut être plus surprenant que genre un débris de pneus ou autre. Là. Quelqu'un qui avait mal attaché ses choses.
All right, Pat Raymond, aujourd'hui, on parle de problèmes financiers.
Ben oui, ben on parle toujours de finances avec moi, puis là, des problèmes financiers ou plutôt des choses à régler avant la fin de l'année. Mais juste avant de commencer, 21% des Québécois admettent gérer leurs problèmes financiers pendant leurs heures de travail. J'oserais pas vous demander si vous avez été témoin de ça ou si vous avez déjà fait ça, mais il semble que c'est quand même contre-productif. Les employés qui ont des problèmes financiers ben pour leur patron,
ouais.
C'est que ça les préoccupe beaucoup, ils sont moins productifs.
Ouais. Ça dépend qu'est-ce que tu fais comme travail. Là. C'est sûr, certain c'est que sûr. Si tu travailles dans le service à la clientèle, tu règles des problèmes financiers quand tu es au IGA, mettons, puis tu fais la caisse, ça peut mal paraître. Mais oui, je dois avoir effectivement, tu sais, quand c'était le temps de renégocier l'hypothèque, tu sais, faut que tu te fies sur l'horaire du gars qui veut négocier l'hypothèque avec toi. Fait que peut-être que je l'ai fait sur les heures de boulot, là. Ouais.
C'est ça, parce que des fois, c'est effectivement les heures ouvrables, puis là, ton rendez-vous virtuel est à 13h15, la caisse va t'appeler, puis là, t'es au bureau, puis là... Mais c'est quand même beaucoup de gens maintenant qui ont certains problèmes financiers, puis je regardais, j'ai sorti de Revenu Québec 2022. On constate que les revenus, tu sais, par exemple, ceux qui font... Je vais faire fi de ceux en bas de 25 000, mais entre 25 000 et 50 000... C'est 26 % des gens qui. Des citoyens. Entre 50 000 et 70 000, c'est 16 % des gens qui gagnent entre 50 000 et 70 000. 70 000 à 99 000 ou 100 000, là, 13 % et seulement 11,62 % qui gagnent au-delà de 100 000. En fait, 100 000 à 500 000 et 500 000 et plus, 0,35. Alors moi, je regarde Instagram. Ils ont
fait que
tous,
c'est 11 % ceux qui gagnent 100 000
privés.
Et plus.
Ben oui, ben c'est ça. Fait que, autrement dit, puis là, on dit que ça prend à peu près 70 000 pour acheter une maison tout seul aujourd'hui. Fait qu'il y aurait comme 25 % des gens qui pourraient être qualifiés pour acheter une maison tout seul à 70 000 et plus. Puis
mais
ça,
je me rends
faut
compte.
Pas que tu aies d'autres choses de paiement. Là.
Mais je me rends compte, Pascal, que le Québec est riche en pauvres puis pauvre en riche.
Voilà. Voilà.
Ben, c'est 1 % de personnes, si je me trompe pas, que j'ai lu en fin de semaine, là, il y a 1 % de gens qui fait 100 000 au Québec.
Ouais, non, c'est 10, autour de 10
%. Ben, pourquoi ils disaient 1 %
ben, 100 000
dans l'article?
C'est 11.62. Ouais. C'est les chiffres de.
Je n'étais pas réveillée, j'avais pas pris mon café, j'ai mixé un 1 ensemble.
Ouais, ouais, ouais. Mais le fameux 1% ou les ultra riches, là, ici on parle de 0.35 pour 500 000 et plus.
Elle était dans le documentaire Alpha.
Dans les mêmes
qui finalement en plus de dettes, fait que ça vient.
Mais pourquoi gagner beaucoup quand tu peux paraître comme si tu gagnais beaucoup dans le fond? Pourquoi pas aller dans l'apparence? Ça va arriver plus vite, le résultat. Sauf qu'il ne va pas perdurer. Évidemment.
Le résultat va arriver plus vite.
Ah ben oui, c'est bien plus facile d'avoir l'air riche que de l'être. Ça, c'est certain.
Mais le résultat va arriver plus vite. Tu vas être dans les dettes. Là,
ben
tu commences à avoir un train
absolument,
de vie.
Mais tu vas faire un an ou deux. Puis il y en a qui veulent faire leur marque de cette façon-là, qu'éventuellement, les opportunités vont venir parce que tous ceux qui sont alentours vont penser qu'ils ont des sous. Les opportunités, tu sais, c'est comme faire assemblant avant que ça soit réel. Et il y a beaucoup de la jeune génération qui c'est ça. On va faire comme si, parce qu'on va attirer à nous des opportunités de gens qui nous entourent, qui fait que, bon, s'il y a une voiture de 125 000, il doit bien gagner, tu sais, il doit avoir de quoi, on va le rencontrer pour lui offrir des opportunités. Puis, ils se bâtissent un personnage. Mais quand tu regardes ces chiffres-là, mais finalement, ça ne fonctionne pas. Ouais, comme tu dis, Yannick, on est très, très, très riche en pauvres au Québec, malheureusement.
Ouais, exact. Mais tu sais, je parlais avec le millionnaire Luc Poirier, l'homme d'affaires.
Oui.
Puis très souvent, lui, il a bluffé. Là, pour gravir les échelons, il a dû bluffer.
Absolument.
Puis il a gagé souvent sa maison, là, sans le dire à sa conjointe. Là.
Oui.
Tu sais, lui, il hypothéquait, hypothéquait, hypothéquait. Puis il a réussi à se monter comme ça. Puis heureusement, il a bien réussi. Mais oui, Pascal, il y en a qui misent toutes leurs dés en disant hey, « pendant un an, deux ans, je mets le gaz au fond. » Puis ça se termine malheureusement par une faillite. Là.
Ah, c'est ça, parce qu'à un moment donné, les cartes de crédit ont des limites. Puis là, tu souhaites qu'à un moment donné, l'offre va arriver. Puis dans le cas de Luc, il y a une tolérance au risque incroyable.
Ouais.
Il a fait évidemment des transactions que plein de gens... Tu sais, c'est toujours une question de tolérance au risque aussi. Ce qu'on est capable de supporter... dans chacun de ces contextes. Puis ce qu'on dit ici, toujours, on valide personnellement est-ce que ça nous convient ou pas, c'est tout ça qu'on aimerait faire ou pas. D'ailleurs, ce que je m'apprête à mentionner dans la chronique d'aujourd'hui, c'est les gestes à poser des fois avant la fin de l'année pour réduire les impôts. Puis la fin de l'année, pour plusieurs, on dit bien, c'est le 1er mars prochain là, qu'on va pouvoir, les fameux 60 premiers jours de l'année qui va faire qu'on peut prendre des REER pour l'année avant, etc. Oui, entre autres. Mais il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut savoir avant le 31 décembre qui s'en vient à grands pas. Évidemment, quand on parle du 31 décembre, je ne pense pas que vous allez appeler votre planificateur financier le 30 pour aller régler des choses. Fait qu'on parle plutôt du 15 ou du... Ça vient très vite. Bien, entre autres, cotiser au CELIAP. Des fois, si on ne l'a pas déjà fait, vous êtes admissible au CELIAP, c'est-à-dire que vous n'avez pas été propriétaire ou du moins pendant 4-31 décembre. À ce moment-là, bien, vous pouvez, par exemple, cotiser au CELIAP là, en décembre. Puis dès l'année prochaine, bien là, vous êtes rendu dans la deuxième année. Fait que c'est ça qui est l'avantage, des fois, de faire un move, si vous me permettez l'expression, en décembre. Puis après ça, janvier, peut donner certains avantages. Évidemment, c'est 8 000 $ par année. Je pense que les gens commencent à le savoir. Et on peut toujours rattraper une année. Or, si on a 8 000, on met 8 000 en décembre. Et dès janvier, on pourrait, c'est évidemment si on a la liquidité, de remettre un autre.
Puis le CELIAP, c'est quoi exactement comme produit?
Bien, c'est le compte d'épargne libre d'impôt pour l'acquisition de notre première propriété. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on cotise au CELIAP, c'est qu'on déduit de notre revenu imposable comme au même titre qu'un REER. Dans le fond, le CELIAP, c'est le REER qui a couché avec le CELI. T'sais? Puis c'est parce que les gains sont à l'abri de l'impôt, comme le CELI. C'est déduit du revenu imposable comme le REER. Et au bout du compte, on utilise ce que le gouvernement nous laisse en impôt qu'on n'a pas à payer, on l'utilise pour faire l'acquisition d'un immeuble.
Moi, j'adore cette nouveauté-là. J'aurais aimé ça que ça existe dans mon début vingtaine.
Oui.
Est-ce que tu peux ouvrir un CELIAP à n'importe quel moment pour ton enfant où il y a un âge minimum et minimal?
C'est
18 ans.
Oui.
Et est-ce que cette personne-là, si mettons c'est un parent qui ouvre un CELIAP pour son enfant, peut mettre ça sur ses propres impôts ou ce n'est que pour la personne qui est concernée?
Ça va être pour l'enfant. Dans le fond, c'est que tu peux donner... je fais un parallèle avec le régime épargne-études parce que j'en parle aussi pour la fin de l'année. C'est, par rapport le régime épargne-études, dès que ton enfant est inscrit pour 13 semaines à temps plein, dans un horaire à temps plein, dès la première année, on peut retirer, au moment où il est inscrit, qu'il est admissible, on peut retirer jusqu'à 8 000 $ du régime épargne-études. OK? Il n'a pas fini ses études, tu retires 8 000 et tu pourrais... le laisser dans les mains de l'enfant pour qu'il puisse le mettre pourrait l'ouvrir avec son CELIAP, prendre son régime épargne-études, le mettre dans le CELIAP. Si, par exemple, il n'en a pas besoin aux études parce qu'il a pris un cours qui n'est pas si coûteux, puis il travaille. Puis... Il y a toutes sortes de stratégies qu'on peut faire. Mais avant le 31 décembre aussi, c'est toutes les stratégies de REER. Si on prévoit un retrait pour un RAP ou un REEP, c'est-à-dire de prendre du REER pour retourner aux études, bien là, à ce moment-là, on pourrait attendre en janvier. Pourquoi le sortir tout de suite? On va attendre en janvier. On ne va pas contaminer notre fiscalité. Ou ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une année de plus pour quand va venir le temps du remboursement. Si on rappe, on est pour rapper, mais on ne rappe pas cette année. On perd une année. Si on a comme 15 ans pour rembourser à la deuxième année après l'acquisition d'une maison, par exemple, après le RAP. Là, on va gagner une année. Avec quelques semaines d'attente, on va gagner une année. Donc là, on attend janvier pour sortir. Des fois aussi, à l'époque que j'étais en gestion de patrimoine, il y a des retraités qui disaient « Moi, j'ai besoin de sortir 10 000, j'ai une croisière. » là. Fait que là, on pouvait sortir 5 000 en décembre et 5 000 en janvier. Fait, pour ne pas contaminer la fiscalité de l'année. Parce que 10 000 dans la même année, ça ne fonctionnait plus, perdait des avantages. Donc, 5 000 en décembre, 5 000 en janvier. Il y a comme deux années, là, en quelques semaines. Et c'est juste d'aller voir vos spécialistes, évidemment, pour regarder ça de plus près. Retirer le CELI. Du CELI avant le 31 décembre, si on en a besoin. Pourquoi? Parce que les droits de cotisation sont rétablis dès janvier de l'année d'après. Donc, mettons, on va retirer du CELI là. Mais en janvier, on va revoir tout notre espace de cotisation, plus le 7 000 qui va s'ajouter. Par exemple, en 2025, c'est 7 000. Si on avait 18 ans en 2009, on peut cotiser jusqu'à 105. Je l'ai su, là, 105? 102 000. 95 plus, c'est ça, hein? 102 000 au total tout, si on avait 18 ans, évidemment, en 2009.
Quoi je pense, Pat? Oui. C'est, tu sais, les gens qui nous écoutent présentement, là, qui disent « Ah, Colin, j'avais eu 18 ans, là, j'aimerais tellement ça entendre cette chronique-là. » Possible d'en parler avec vos enfants aussi. Tu sais, qui sont à un très jeune âge, peuvent commencer, tu sais.
Ben, oui.
Juste essayer d'aller rencontrer un planificateur financier. À 18 ans. Il y en a qui le font à 16 ans maintenant. Là. J'ai entendu un planificateur financier à la radio dire « J'ai mon premier client à 16 ans.
Ouais. »
C'est hot. Là.
Ben oui, c'est le gars qui vend des sapins.
C'est, je sais pas.
Petit entrepreneur.
C'est une bonne question. Mais 16 ans, avoir un conseiller financier, je trouve ça franchement intéressant.
Si tu travailles, puis tu vois, puis tu sais, les cadeaux aussi, là, quand tu es à la maison, puis tu n'as pas besoin de grand-chose. Moi, j'ai une de mes amies que sa famille, mettons, la carte cadeau était de 100$ à sa fête. Mais si elle choisissait la carte cadeau, elle avait 100$. Mais si elle choisissait que ça aille dans un compte quelconque, c'était le double de mise. Fait que c'était pour lui faire comprendre que tu vas faire de l'argent, même si tu ne l'utilises pas là, en cossin de chez Sephora. Fait qu'elle avait le choix. La carte cadeau, 100$, qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, mettons, dans un commerce X, ou 200$ qu'elle allait dans un compte CELI ou peu importe. Je trouvais ça brillant.
Mais oui.
Ben, c'est d'apprendre à mettre l'argent de côté pour la faire travailler. Et je parlais de ça sur mon podcast, Financièrement parlant podcast. Tu sais, il y a la semaine passée ou l'autre semaine, les rendements avaient été très bons sur les marchés. Tu sais, puis pour une des premières fois, je pense que c'est la première fois, peut-être c'est arrivé, mais tu sais, j'ai fait beaucoup plus en une semaine avec les rendements des placements que lorsque j'ai travaillé dans des très, très bonnes années en revenus. Et écoute, j'en parle depuis des années. Et là, j'ai comme vraiment plus réalisé. Évidemment, ce n'est pas de l'argent que j'ai mis dans mes poches, là. C'est du rendement à long terme, mais j'ai fait plus de rendement avec l'argent qui travaille pour moi que les revenus que j'ai déjà faits dans des années où c'était des très, très bons revenus pour une semaine. Tu sais, c'est comme fascinant de voir comment il y a de l'argent à faire avec de l'argent. C'est un classique des fois, mais on l'oublie. Il y a vraiment des choses à comprendre. Puis les enfants, de comprendre que, je ne sais pas, moi, à 16 ans, donne l'exemple de 16 ans, le 1 000 $ à 16 ans, il est quoi à 30 ans? Il est-tu 3 000? À la retraite, il est-tu 15 000? T'sais, je sais que c'est difficile à voir à cet âge-là pour parler de la retraite, mais c'est-tu une opportunité d'affaires que tu vas être content d'avoir ton 25 000, 30 000 à 30 ans parce que quelqu'un t'offre l'opportunité d'embarquer dans une business ou d'acheter de l'immobilier, bien, ça prend toujours de la liquidité prête à déployer.
Puis les gens sont-ils au courant des crédits d'impôt qui sont offerts ou encore les déductions fiscales? Supposons, je sais pas, moi, il faut que je fasse des rénovations chez nous. Là. Les gens sont-ils tout au courant?
Ouais, c'est fou, Yannick. Je suis content que tu me parles de ça parce que il y avait un chiffre qui est sorti, 60 %, je pense que c'est StatCan, permettez-moi, là, StatCan ou en tout cas, c'est une source fiable, là, c'est peut-être l'Institut de la statistique. 60 % des gens laissent les crédits d'impôt sur la table, ne l'utilisent pas. Mais au centre d'achat, ils chialent, on paye trop d'impôts, on paye trop d'impôts. Bien, tu sais, des fois, on veut faire ses affaires soi-même. On fait ses impôts. Bien non, allez voir quelqu'un qui a beaucoup à perdre si vous faites ça tout croche. Vous allez pouvoir revenir contre lui. Allez voir un CPA s'il faut. Moi, il dit, je ne suis pas big, je ne suis pas riche, pourquoi aller voir un CPA? Bien, peut-être au moins pour tout mettre en place les crédits, de ne pas en perdre. À chaque année, ça change. Les lois fiscales vont changer. Il faut vraiment, vraiment tout revoir parce que les crédits d'impôt, là, c'est assez magique. Tu sais, quand on parle d'un taux effectif, là, toute l'année, on a un taux moyen avec des taux marginaux qui montent, les braquettes, comme on disait, les marches d'escalier. Mais à la fin de l'année, c'est un taux effectif, là, un dans l'autre. Puis souvent, tous les crédits qui nous reviennent, quand on dit bien, il y a des gens qui ne payent pas d'impôts, là, ils en ont payé, mais ils vont le ravoir justement à cause du fait que les crédits d'impôt applicables. Mais si tu ne demandes pas tes crédits d'impôt, tu sais, on parle de fin d'année, là, les crédits d'impôt pour dons de charité, les crédits d'impôt pour même médicaux, tout ça, c'est d'aller chercher tous les crédits que tu peux avoir sur tes médicaments, tes lunettes, ton dentiste, massage, peu importe, tous les services. Tu sais, quand tu n'as pas des gens, ils disent ben, j'ai des assurances. Parfait, tu as des assurances, mais il y a une partie que c'est toi qui paies. Mm-hmm. La partie que tu paies, tu peux la mettre sur tes crédits d'impôt. C'est certain qu'il y a toujours la fameuse règle là, du fameux 3 % du revenu net. Là. Fait que ça se peut que tu as peut-être 300$ de dépenses de médicaments, puis tu arrives au comptable, puis tu n'es pas admissible, mais tu donnes tout ce qu'il faut pour que le comptable puisse travailler comme du monde, puis que tu ne laisses pas de crédit d'impôt sur la table. Il y a 60 % des gens qui perdent des crédits. Puis ça, des crédits, des fois, c'est des centaines de dollars qu'on laisse comme ça au système. Puis eux autres, ben ils vont savoir quoi faire avec, c'est sûr.
Si je peux me permettre aussi, Pat, quand c'est le temps de l'impôt, on voit souvent sur Marketplace, exemple, des gens qui proposent de faire la comptabilité des individuels.
Ouais.
Dites-vous que si quelqu'un recherche cette clientèle-là, c'est peut-être parce que c'est pas quelqu'un qui fait ça régulièrement, là.
C'est
moi, un bon comptable, là, une fois que j'ai fait affaire avec un bon comptable, moi, c'est une comptable, là, je la trouve formidable.
Ouais.
Elle me pose des questions qui sont hyper emmerdantes, mais qui sont hyper primordiales. Puis à la fin, quand je vois le résultat de tout ça, là, je vois qu'elle a travaillé en sacrifice pour me faire sauver de l'argent le plus possible. Puis je me suis dit, toutes les années où je cherchais quelqu'un pour faire mes impôts à 20$ là, pour mon rapport d'impôt, t'imagines-tu tout l'argent qu'on a perdu? Puis, ces gens-là sont gentils, puis ils savent compter, c'est correct. Là.
Absolument.
Mais l'importance d'avoir un bon comptable quand tu as une coupe d'affaires, là, elle est primordiale.
Le professionnel là, qui connaît aussi les lois de l'impôt, des fois, il est fiscaliste aussi, mais des fois, il ne l'est pas, mais il connaît les lois de l'impôt. Des choses qui peuvent aller te chercher aussi dans les années antérieures. Tu te dis, bien, j'avais jamais pensé de rembourser ça. Des pertes en capital, des gains en capital. Tu as fait une perte en capital cette année. Cette année, c'était très bon sur les marchés, mais des fois, quelqu'un a fait une perte en capital. Bien, une perte en capital, on peut accoter ça contre un gain en capital. On peut-tu aller 2 ans, 3 ans en arrière? On peut-tu reporter ça dans le futur? Tu sais, c'est des choses, effectivement, c'est ça, là. Mais c'est des choses à vérifier avec votre comptable. Puis moi, l'affaire, Yannick, tu parles de ça, là, d'un bon comptable, là. Il y a quelque chose à un moment donné que j'ai allumé. Le comptable, là, j'y donne mes shorts, là. Il y a tout, là, mon numéro d'assurance sociale, mes coordonnées. J'y donne tout, là, dans une grosse enveloppe. C'est pas une boîte à chaussures, là, mais c'est une grosse enveloppe. J'y donne tout ça, puis j'y fais confiance.
Mmh. Ouais, bon, moi, elle a mes numéros d'entreprise, là, mes mots de passe, TPS, TVQ, elle est capable de tout faire ça par elle-même.
Elle s'en va sur ton site, là, de l'Agence du revenu du Canada, elle accepte.
Mais c'est une relation de confiance que tu dois avoir avec
Absolument.
Elle. Absolument. Mais j'ai combien d'années que je cherchais tout le temps un comptable le moins cher possible. Là, finalement, c'était pas des comptables, c'était des gens qui faisaient ça on the side chez eux, des gens qui étaient super bien intentionnés.
Ah oui.
Mais ils ont passé à côté de combien d'affaires que j'aurais pu avoir pour avoir ça, un peu à payer moins d'impôts.
Absolument. T'sais,
les gens veulent sauver 20$, mais en bout de ligne, quand tu fais affaire avec un comptable, oui, tu le payes plus cher, mais tu peux sauver des milliers de dollars.
C'est incroyable. Puis des fois, juste d'allumer sur, par exemple, le régime épargne-études avant le 31. Effectivement, si vous n'avez pas cotisé cette année avant le 31, il faut mettre le fameux, exemple, 2 500 pour avoir 20 % du fédéral, 10 % du provincial. Mais si vous n'avez jamais cotisé, puis votre enfant va avoir 15 ans cette année, bien, c'est la dernière année pour mettre au moins 2 000 pour, après ça, continuer dans les 2 autres années qui vont rester, puis d'aller chercher le maximum des crédits, des subventions, en fait, que je devrais dire, pour votre enfant. C'est-à-dire que vous n'avez pas cotisé, puis là, il y a 15 ans, vous cotisez 2 000, ça veut dire que vous allez avoir 2 000 au moins, mais vous pouvez cotiser plus que ça, vous allez avoir 30 %. L'année 16 ans, vous pouvez cotiser l'année 16 ans et rattraper une année. L'année 17, vous cotisez l'année 17 et vous rattrapez une année. Alors, vous allez chercher, ça fait combien ça? Environ 5 années. Il reste 2 ans, vous allez chercher pratiquement 5 années avec des crédits. Fait que, tu sais, il reste. C'est ça, c'est de regarder. Si votre enfant a 10 ans, vous n'avez jamais cotisé au régime épargne-études, vous commencez maintenant et vous récupérez une année à chaque fois. Là, tu vas me dire, ben oui, mais ça le prend tout le temps, le fameux 5 000 pour ton enfant, 2 500 de l'année en cours et 2 500 qu'on récupère, 2 500, 2 500, 2 500. Il faut l'avoir, l'argent. Mais il y a toutes des choses comme ça qu'il faut savoir. Les crédits d'impôt aussi, de récupérer. Si, par exemple, votre enfant veut s'inscrire à des sports ou tout ça, mais des fois, de s'inscrire avant décembre, comme avant le 31 décembre, bien, il va rentrer dans les crédits admissibles pour l'année 2024. Si c'est le 3 janvier, bien, ça va aller dans l'année 2025. Or, vous allez l'avoir en début 2026. Fait que des fois, c'est juste des petites affaires de même. Tu dis, bien, j'aime autant, je pourrais avoir mon remboursement tout de suite ou rapidement que d'attendre encore une année. De toute façon, il faut qu'ils s'inscrivent quand même. Fait qu'il y a des choses qu'il faut régler avant le 31 décembre. Puis, normalement, vous allez avoir votre conseiller planificateur. Il est très allumé sur ces trucs-là. Vous n'avez pas besoin d'avoir le fiscaliste puis d'aller. Mais si vous avez quand même de la business, là, je n'ai pas parlé des gens d'affaires, des travailleurs autonomes, les dépenses. On achète-tu l'ordinateur en décembre? On attend-tu? On achète-tu le mobilier de bureau en décembre ou en janvier? C'est des choses vérifiées avec vos spécialistes. Là.
Je me posais des questions.
Il y a quand même certaines choses à savoir aussi quand tu es en affaires.
Pascal fait majoritairement du télétravail, mais elle doit être ici physiquement à tous les jours pour son émission de radio. Mais en réalité, elle travaille plus à l'extérieur chez elle qu'en ondes. Elle pourrait